gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Salut amis auditeurs, amis auditrices du 102.2 sur la bande FM ou sur radiocanu.org. Il est 22h et quelques petites minutes et c'est l'heure de la causerie comme presque tous les dimanches. Et ce soir dans la causerie, nous avons, je vais la déranger pendant qu'elle fait un truc, à la technique, Clara.
Bonsoir.
Et nous avons aussi Fab.
Bonsoir Jean-Yves et merci de faire l'ouverture de cette émission qui va être extraordinaire.
Voilà. Et dans les studios, nous avons aussi... Je ne te citerai pas. Nous avons aussi Damien Martinière.
Salut, bonsoir.
Salut. Et via les ondes internet, qu'est-ce que la technique est formidable, nous avons Paul Bonnat, ou autrement dénommé
bonsoir.
Polo.
Ben
bonsoir.
Voilà.
Et nous avons aussi une spectatrice qui ne veut pas dire bonjour, mais bonjour quand même.
Bah oui, bonjour.
Mais le plaisir, c'est cool que tu sois là. Eh bien, causerie ce soir autour d'une BD. Ils vont en dire plus dans quelques instants, après peut-être s'être présenté.
Bah oui.
On commence par qui?
Bah, par celui qui est le plus loin.
Par celui qui est le plus loin. Eh bien, Polo, je crois que c'est à toi. Si tu peux te faire une petite présentation pour les auditeurs et auditrices.
Ouais, bah du coup, Polo, auteur de bande dessinée. Du coup, je le présente dès le début.
Oh bah oui. D'où viens-tu? Allez, qu'as-tu fait? Que fais-tu? Voilà.
Bah du coup, j'ai grandi entre Bastia et Corté en Corse. Et puis une fois que j'ai eu mon bac, je suis parti en Belgique, à Tournai, pour faire des études de bande dessinée aux Beaux-Arts. Et une fois que j'ai obtenu mon diplôme, je suis allé pas très loin à côté, à Lille, où j'ai commencé à faire mes premiers albums. D'abord un peu en espèce d'auto-édition, puis ensuite... un album avec Gaël Henry à la boîte à bulles. Et de là, j'ai fait pas mal de contrats de colo, parce que j'aime bien mettre la colo, pas que du dessin dans les albums.
Est-ce
BD,
qu'on on peut faire un peu les pas pro? C'est quoi la colo?
Tu sais, c'est là où il y a des enfants, tout
ah,
ça.
Oui, ah non, bah, coloriste. Quoi.
Ok. On joue un peu les niais, mais voilà.
Et un jour, on m'a contacté pour me proposer l'album Trompe-l'œil au dessin. Et voilà, du coup.
Et du coup,
mon parcours résumé très rapide.
Bah très bien, merci beaucoup. Et donc du coup, c'est Damien qui prend la suite.
Oui, donc Damien Martinière. Donc moi, je suis réalisateur et scénariste. En fait, je suis gérant d'une société de production à Lyon qui s'appelle Picture à Film. Voilà, je suis dans l'audiovisuel, cinéma, série, documentaire, etc. depuis une quinzaine d'années. Et je fais de la bande dessinée depuis maintenant 3 ans, on va dire, que je me suis lancé vraiment dans la BD. Donc en scénario, je fais pas de dessin, et vaut mieux pas. Donc voilà, moi je suis donc effectivement scénariste. J'ai fait 2 rues de Lyon, donc on s'était vu d'ailleurs... ici même pour en causer. Et puis donc là c'est ma première bande dessinée en format long, on va dire, donc one shot de 128 pages. Voilà, c'est ma première sortie BD.
Là où les rues de Lyon, on peut le rappeler, c'est 12 pages.
Ouais, c'est ça.
À 10 d'ailleurs même.
Ouais, 12 pages et après la couve et tout.
Mais d'ailleurs, alors on dit quoi? On dit BD ou roman graphique?
Bah, en fait, un roman graphique, c'est une BD. Hein. C'est un terme un peu galvaudé pour dire BD adulte. C'est un peu des termes, on va dire, commerciaux, je ne sais pas trop. En fait, c'est plus pour faire le distinguo entre la BD qui peut être un peu format classique, 48 pages, un peu franco-belge, et puis roman graphique, c'est un peu depuis quelques années les formats un peu plus libres, entre guillemets, dans la narration.
Ah, je crois qu'il y a Polo à distance qui veut nous dire quelque chose. Vas-y.
Oui, bah, c'est sur le terme roman graphique, en fait. J'ai remarqué que c'est un terme qui est apparu, en fait, quand la BD, ça voulait surtout se légitimer aussi pas mal, comme en étant de la littérature et tout ça. Et quand on utilise le terme BD, souvent, on a beaucoup de gens qui, ont, jusqu'à présent, avaient l'imaginaire livre pour enfants, quoi. Mmh. Et le roman graphique, ça donnait un petit côté sérieux, quoi.
Ouais.
Et une des preuves, je crois, que c'est que maintenant, même le terme roman graphique est de moins en moins utilisé, quoi. Et on revient au terme BD en admettant que c'est de la littérature légitime.
Oui, c'est ça. Et c'est quand on lit la quatrième de couverture qu'on peut souvent savoir si c'est pour les enfants ou pour les adultes, quoi, finalement. On n'a pas précisé quand même, parce que cette BD... Oui, BD, j'ai le droit de le dire.
Oui, c'est légitimé, tu peux dire.
Cette BD Trompe-l'œil, elle est aux éditions Jungle.
Ouais, c'est ça, Jungle, dans la collection Ramdam.
Un petit mot peut-être sur la maison d'édition, parce que moi perso, je la connaissais pas, mais je suis pas un grand spécialiste non plus de BD.
Ouais,
mais...
Du coup, en fait, Jungle, à la base, c'est plus une maison d'édition jeunesse pour le coup, et Ramdam, c'est leur collection plus adulte.
Okay.
Donc voilà, il y a une dizaine de BD qui sont sortis dans la collection, et là on est la dernière en date, du coup.
Eh ben nickel. Polo veut rajouter un petit mot.
Ah oui, moi je viens rajouter des petits trucs.
Mais tu as raison.
et ils ont aussi Jungle, ils ont aussi la collection Stenkis, en fait, qui est surtout pas mal de BD documentaires et récits un peu historiques. Et moi je sais que c'est comme ça que du coup qu'on a fait la connaissance avec Damien, parce que je travaillais déjà avec Stenkis, enfin Jungle Stenkis, dans la collection plutôt documentaire et récit de vie, dans les romans graphiques.
et si je me trompe pas, je crois que sur la une de la BD, il y a écrit Paul Bonnat, il y a Damien Martinière, mais il y a une troisième personne qui est citée. On peut peut-être quand même vite fait lui faire un petit coucou, Paul, si t'as envie.
Ouais, bah du coup c'est Muguchi, du coup qui est accessoirement ma compagne, mais qui elle aussi est illustratrice, en fait. Et du coup là, sur cet album, pour des raisons diverses et variées, j'ai pris un peu de retard, et du coup elle m'a aidé à faire les couleurs, et donc on l'a crédité en tant que coloriste, parce que pour de vrai, heureusement qu'elle était là, sinon... l'album ne serait pas encore sorti.
Ça nous arrange bien qu'il soit sorti à temps. Enfin, pour nous, qu'on l'avait un peu programmé là. Donc, mais moi, du coup, quand même, on va quand même dire, c'est Trompe-l'œil, hein, le titre, parce que tu l'as dit tout à l'heure, Polo, mais on ne l'a pas redit depuis.
Ouais,
donc, quand même, ce qui est important, d'avoir le titre de cette BD, roman graphique, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est super bien, on vous le dit.
Merci.
Parce qu'on va rappeler qu'à la causerie, on ne reçoit que ce qu'on aime. Donc ça, c'est l'avantage d'être une radio associative et de recevoir que ce qu'on aime. Donc voilà, déjà, vous savez que ça nous a plu, sinon, il ne serait pas là. Et juste, donc, on va commencer à parler de la BD quand même un petit peu, avant de faire une première pause musicale. Juste poser un petit peu l'ambiance. Déjà un peu étonnante, parce que caribou, neige et skidou.
Oui.
Voilà. Donc on est au Canada.
Oui, tout à fait. On est au Québec, même plus précisément. Et donc dans l'hiver québécois. Et on parle de faux tableaux, de gangsters, etc. En fait, c'est l'histoire de deux familles qui s'associent dans un trafic de faux tableaux. Et voilà, c'est une sorte de polar un peu déjanté. Et ça part en cacahuète, on va dire, très, très rapidement dans la BD.
Paul, quelque chose à rajouter?
Moi, grand spécialiste, hein, du Québec et de la neige. Hein. J'ai grandi en Corse. Je suis enfui à Toulouse parce que je trouvais qu'à Lille, il faisait trop froid. Donc,
Merci pour ces précisions.
Non, mais en tout cas, voilà. Donc, on a posé l'ambiance, ouais, un petit peu de cette
Trompe-l'œil.
De Trompe-l'œil.
Aux éditions Jungle.
On va faire une petite coupure musicale et on revient en parler juste après, histoire de vous donner hyper envie de sauter sur cette BD. Thank you.
constant sorrow all through his day. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my day. I bid farewell to old Kentucky, the place where I
à l'écoute de Radio Canut, évidemment, et c'est toujours la causerie, toujours en compagnie de Damien.
C'est beaucoup de toujours, il faut t'arrêter avec le toujours.
Non, c'est une promo, j'en ai acheté plein. Donc nous sommes toujours en compagnie de Damien et Polo à distance. On parle de la BD Trompe-l'œil aux éditions Jungle. Et la musique, elle a été sélectionnée par nos invités. Mais vu que mon anglais est vraiment meilleur que le leur, je vais donner le titre. Donc là, c'était, non, c'est juste la BO du film Oh Brother.
Tout à fait.
C'est ça ?
Ouais, exactement.
Et tu as envie de dire pourquoi tu l'as choisi ?
Ouais, non, bah en fait, du coup, c'est Oh Brother, c'est un film assez culte des frères Coen. Et moi, les frères Coen, c'est une de mes références en termes de cinéma, en termes d'auteur. Parce que c'est vrai que, du coup, j'ai beaucoup de références cinématographiques parce que bah, je viens de cet univers-là. Et effectivement, Oh Brother, voilà, c'était un petit clin d'œil parce que j'adore cette musique. Et c'était un petit clin d'œil aux frères Coen, d'autant que quand je parle de ce projet, souvent on parle de Fargo, qui est un des films des frères Coen aussi, qui a après été adapté en série. Et
bah, en même temps, la neige, le froid,
exactement, des meurtres,
ça colle.
C'est ça. Mais c'est vrai qu'en fait, on avait dit en préparant l'émission, mais avant de voir, j'avais pas vu en fait Fargo avant d'écrire la BD, pardon. Donc voilà, j'ai découvert en fait, alors que j'adorais les frères Coen, mais j'avais jamais eu l'occasion. Et du coup, j'ai kiffé, hein. Mais je me suis pas forcément inspiré de ça, mais j'ai beaucoup aimé et j'aime de manière générale les frères Coen.
Bah nickel, merci pour ces explications.
Ouais, nous on va en parler, mais on va parler on va peu dévoiler parce qu'il n'y a quand même que 128 pages. non mais dans le sens où ce serait dommage, il y a beaucoup de rebondissements.
Ouais.
Moi, juste en termes de rythme, je vais quand même le dire, elle est super rythmée, la BD.
Ouais.
Vraiment. Et vous avez fait tous les deux un boulot d'enfer là-dessus. Et vraiment, je trouve qu'il y a un côté... on saute d'une case à l'autre avec une espèce de frénésie à vouloir savoir ce qui se passe après, et c'est super agréable parce que ça montre d'abord que c'est super bien fait, parce que sinon on a tendance à se dire bon, elle est chaude 3 pages donc là pas du tout. Mais il y a quand même un univers. Alors il y a quand même un univers de gangsters, tu l'as dit,
ouais,
quand même,
tout à fait.
De fossoyeurs, on va pas trop de pas de fossoyeurs, de faussaires. Oui, les fossoyeurs, c'est les gens qui font les tombes, rien à voir. De faussaires.
Il y en aura à un moment donné. Mais...
je vais aller me coucher après, moi je vous le dis. De faussaires et il y a quand même quelque chose qui moi m'a déjà interpellé et plu, c'est que tu as 2 héroïnes.
Oui, tout à fait.
Voilà, et c'est rare dans ces univers-là d'avoir 2 héroïnes.
Ouais, bah effectivement, bah moi c'est vrai que j'aime beaucoup les personnages féminins, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le cinéma ou la littérature. J'aime bien en fait prendre aussi, enfin c'est vrai que dans les films de gangsters ou les histoires de gangsters, c'est rarement des femmes, et je trouve que justement quand il y a des personnages de femmes, c'est toujours un petit peu, enfin elles sont traitées différemment et ça apporte autre chose. Et puis c'est vrai que là je voulais parler de la relation père-fille, donc c'est aussi pour ça que les deux personnages féminins sont au centre de l'histoire. C'était aussi pour parler de ça, mais ouais, je trouvais que ça apportait autre chose et un petit peu d'originalité à l'histoire.
Mais là, je vais revenir encore un peu avant. Finalement, enfin, elle est née quand dans ta tête, cette BD? Enfin, ça fait combien d'années finalement qu'il y a quelque chose qui se trame dans le cervelet et qu'après on se dit tiens, je vais quand même le poser.
Ouais, bah en fait, ça fait deux ans et demi, 3 ans qu'on travaillait dessus avec Anne-Charlotte, qui est l'éditrice. Du coup, c'est venu assez naturellement. Moi, le point de départ, vraiment, c'était la relation père-fille,
okay,
dans le travail. non, mais en fait, c'était vraiment par rapport à mon histoire personnelle, familiale, où ça a toujours été un peu complexe. Du coup, voilà, ça m'intéressait de parler de ça. Et effectivement, après, comme j'ai beaucoup de références, de films de gangsters, d'histoires de gangsters, ça m'intéressait de mettre un contexte avec des enjeux assez forts. Et du coup, c'est vrai, je suis parti sur ces deux points de départ et ça a fait ça. Donc, c'est vrai que j'ai mis quand même pas mal de temps avant d'arriver à trouver cette formule-là. Mais oui, le projet il a démarré il y a 2 ans et demi maintenant, à peu près, je sais plus, je suis un peu perdu. Mais ouais, ça commence à remonter un peu, donc ça fait plaisir que ça sorte enfin.
Non, mais... bah, alors, bah, du coup, parce que j'avais oublié la question sur le d'où ça vient. c'est vrai, bah, des fois, je saute des trucs. Et alors, moi, il y a un truc dont je ne sais pas si tu veux parler ou pas, mais tes deux héroïnes, au départ, elles sont un peu cassées toutes les deux. Il y en a une qui sort de prison.
Ouais.
Voilà. Et l'autre qui est quand même dans un état un peu second permanent, on va dire. Mais,
oui, effectivement.
Voilà.
Ouais. Ouais, bah, en fait, c'est vrai que j'aime bien les anti-héros, anti-héroïnes. Et effectivement, bah, Jade, qui est le personnage principal, on va dire, sort de prison. Et du coup, elle n'a pas du tout envie de se ranger, de se réinsérer dans la société. Elle a envie d'aller encore plus loin. Elle a rencontré des gens aussi en prison. Et du coup, quand elle sort de prison, elle a envie de mettre un peu ce qu'elle a appris en prison à profit. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'elle va pas du tout apprendre de ses erreurs, entre guillemets. Et puis,
elle a appris, mais pas de ses erreurs.
Ouais,
elle a appris beaucoup en prison, justement.
Exactement. Et du coup, c'est vrai que Fiona, elle... est alcoolique, hein, on peut le dire. Et du coup, c'est pareil, ça m'intéressait de parler de l'addiction, en fait, et les deux sont ces deux formes d'addiction. Il y a une addiction un petit peu à l'adrénaline et une addiction à l'alcool pur, voilà, pour échapper un peu à certaines de leurs réalités qui sont un peu compliquées.
Ouais, et l'environnement justement des grands espaces, un climat quand même, enfin pas des plus sympas quand même, ça doit cailler sévère. Enfin, je trouve que ça vient vraiment nourrir tout ça en fait. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment, ça a vraiment du sens en fait. Alors, bravo.
Merci.
Mais non, enfin vraiment c'est.
Il y avait une question
Non, il n'y a pas de question. Ouais, je suis le spécialiste des non-questions. Mais non, par contre,
j'ai un commentaire en fait.
Voilà, c'est un commentaire, effectivement. C'est peut-être déplacé, je ne sais pas. Mais non, mais enfin, oui, pareil. Mais est-ce que justement, est-ce que cet environnement-là, il t'a aidé à installer les personnages? Est-ce que on aurait pu avoir la même histoire à quelque part? Oui, enfin bref, dans un environnement différent. Enfin voilà, est-ce que l'environnement avait quelque
genre
chose
genre à Toulouse où il fait plus chaud?
Ouais, par exemple.
Ça aurait pu marcher. Non, mais ce que j'aimais bien, c'était justement le fait que les personnages soient toujours emprisonnés. En fait, Jade, elle sort de prison, mais au final, elle est emprisonnée dans cette espèce de petit village qui lui-même est perdu dans des grands paysages désertiques, entre guillemets, même s'il y a un peu de vie. Mais en tout cas, il y a un lac gelé, il y a la forêt, etc. Donc c'est vrai que j'aimais bien en fait que les personnages galèrent. Ils galèrent un peu à se déplacer, ils galèrent à communiquer, hein, clairement. Et puis voilà, ils sont enfermés vraiment dans ce paysage-là. Donc c'est vrai que je trouvais que c'était assez adapté. Et puis voilà, l'hiver, ça me parlait bien. Toute l'iconographie aussi, ça fonctionnait bien.
Et du coup, on retrouve aussi les deux flics.
Oui.
Alors, qui sont quand même sans être des caricatures, parce que finalement ils le sont pas tant que ça. Mais on va dire un flic bourru de la campagne qui est pas loin de la retraite et qui aimerait bien que tout ça s'arrête. Et un petit jeune qui arrive un petit peu comme ça de la grande ville avec un peu idéaliste, on va dire ça comme ça. Et c'est très cinématographique.
Oui.
Et c'est un peu le duo un peu de base de beaucoup de films où il y a des flics en doublette. C'était une envie que t'avais ou d'où c'est venu en fait cette idée-là?
Ouais, en fait quand on regarde la BD, il y a vraiment trois duos. Il y a donc les Williams qui sont un peu les méchants, même si c'est un peu, tout le monde est un peu
c'est
méchant.
Pas vraiment qui est le pire,
en tout
quoi.
Cas voilà, c'est ça. Il y a les Delage et puis après il y a ce duo effectivement de flics, Phil et Otto, et je les ai vraiment effectivement écrits comme un duo, mais au final pareil, ils ont chacun leurs idéaux, mais on sait pas trop qui est vraiment au final bien ou pas bien. Enfin voilà, ils ont tous un peu leurs qualités, leurs défauts, et effectivement je les ai vraiment écrits en opposition l'un à l'autre, et j'ai essayé de les faire compléter voilà dans leur communication et dans leur façon de travailler.
Ouais, ce qui fait qu'on sait plus trop si c'est vraiment un duo ou pas quoi. Mais je me tais parce que je suis un peu le roi de trop en dire.
Du spoil. Alors moi je vais quand même dire quelque chose sur la BD, mais qui m'a vraiment plu, c'est qu'elle est amorale au sens elle cherche pas à prendre position, et c'est plutôt cool, parce que je trouve qu'on est un peu submergé de création, on veut à tout prix avoir une position claire, morale ou éthique ou machin, et que des fois ça fait du bien de se dire que le monde il est un peu gris, il est pas blanc ou noir, et que
voilà que surtout que la vie
elle est pas
juste bon et méchant, et c'est plus
et j'ai complexe. Trouvé ça très bon, mais c'est surtout souligné par une série de dialogues, mais alors vraiment, mais aux petits oignons, quoi.
Bah, merci.
Pour reprendre un peu du Audiard. Et alors, je sais pas si c'est toi qui les as tous écrits. Je sais plus, Polo avait été interviewé aussi, je crois, sur les dialogues, ou je sais
ouais,
plus.
Ouais, en fait, j'ai écrit les dialogues, mais certaines séquences que Paul a mis en scène, il a pris des, on va dire, des bases de dialogues que après j'ai retravaillé. Mais en tout cas, oui, la plupart des dialogues, c'est plus de mon côté, effectivement. Et j'aime bien les dialogues qui sont un petit peu fleuris, chantants, comme ça. Et
un petit peu. Ouais. J'aime beaucoup le un petit peu. Donc ils sont très fleuris, chantants.
C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est vrai que je suis content que ça te plaise, parce que vraiment, c'est ce que je préfère faire, les dialogues. Et effectivement, j'aime bien, en fait, vraiment donner un ton à travers la BD. Donc il y a les personnages qui racontent, etc. Mais après, c'est vrai que leur façon de parler. Une façon de parler qui n'est pas du tout québécoise. Hein, pour
c'est
le
ce
coup.
Que j'allais dire, il manquait des tabernacles et tout
ouais.
ça.
Ouais. Mais j'y avais pensé au début, mais je trouvais, je trouvais que ça fonctionnait pas. Et je me suis dit, est-ce que justement ça va pas être un peu cliché?
Oui, c'est ça, c'est devenir une caricature d'un
c'est
truc.
Ça.
Puis c'est pas ton idée du tout au
exactement.
Départ.
Exactement. Et du coup, en fait, je me suis dit, vas-y, va plus dans ce que tu connais. Donc, pareil, en préparant l'émission, on citait Audiard. Et c'est vrai que Audiard, Alexandre Astier, tout ce genre de. D'univers là, moi j'aime bien l'argot et tout, et dès que j'écris, j'essaie toujours de trouver des synonymes d'argot. Voilà, j'ai des bases d'argot dans mon disque dur interne, mais du coup j'en cherche toujours pour essayer de trouver des voilà un peu d'originalité dans les dialogues et voilà.
Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup aussi bien par et ça on en parlera un peu plus tard plus profondément, mais sur le côté visuel, mais dans ce qui est du dialogue et du scénario, ça rend ça intemporel. C'est-à-dire que la BD, on ne sait pas vraiment quand la situer, on ne sait pas si on est aujourd'hui, il y a 20 ans ou dans 20 ans, et c'est du coup encore plus agréable parce que ça montre que c'est une situation qui peut se produire finalement n'importe quand, après tout, et ça amène quelque chose que moi j'apprécie beaucoup dans l'art en général et dans la BD en particulier, c'est que dans 20 ans je pourrais la faire lire et ça restera toujours d'actualité. Ça c'est cool, ouais. mais c'était volontaire de pas ancrer ou c'est juste ça s'est fait naturellement?
Ouais, je pense que j'ai pas trop réfléchi à ça, mais en fait il y a juste des téléphones. C'est peut-être le seul moment. Bon, à un moment ils sont en visio, mais il y a une case quoi. Donc,
oui, c'est ça, oui,
mais
c'est
effectivement, ça. C'est vrai que c'est pas très ancré. Et non, c'est pas forcément conscient, je sais pas. C'est... Après, moi j'aime bien aussi ne pas. J'aime bien les histoires universelles et comme on disait, ça aurait pu se passer ailleurs qu'au Québec aussi, peu importe. C'était vraiment parler d'histoire de famille et peu importe, effectivement, c'était il y a 20 ans, dans 20 ans, maintenant. C'est vrai que si on peut la lire dans 20 ans et que ça parle encore, c'est cool.
Ah non, mais c'est clair. Mais du coup, ça, je trouvais que ça te rapprochait de l'univers des frères Cohen, justement, qui ont un vrai côté. Alors, je vais le dire, oui, ça te raccroche, mais alors, ce que je veux préciser, c'est que c'est pas une copie. C'est vraiment clairement, quand je dis ça, c'est pas ah oui, tu as fait du frère Cohen, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste que je trouve que t'as la même patte de rendre tes histoires un peu, on va dire, difficiles à cerner de quand elles se passent. Ce qui fait que du coup, les films restent toujours vrais, et finalement la BD reste toujours vraie. Parce que, comme on sait pas trop, il y a toujours des raisons, enfin les frères Cohen, ils ont un petit truc, hein, y a toujours des raisons pour lesquelles le réseau téléphonique ne passe pas, ce qui fait qu'il n'y a plus de téléphone, ce qui évite de sortir un téléphone portable. ça date pas le film. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, et j'ai beaucoup aimé les dialogues, je le redis, et le scénar, il est vraiment top. Voilà, mais là, j'en dis pas trop, parce que si j'en dis plus, après, t'achètes pas la BD, ce serait dommage. Le but, c'est quand même, ami auditrice auditeur, que tu sautes sur la BD à partir de jeudi, parce que je dis qu'elle était sortie, mais elle sort que jeudi. Voilà.
Trompe-l'œil aux éditions Jungle.
Ouais.
C'est ça. Hein.
Et c'est là qu'on lance la musique ou
Allez, on lance la musique et après, on va attaquer un peu plus le boulot de que Polo a réalisé. À tout de suite après la musique. Hit it, boy, don't you give me lip, boy. Hit it. Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu. Oui, c'était enjoué. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, toujours la causerie, presque comme tous les dimanches. Nous sommes en compagnie de Damien Martinière et de Polo, qui est de l'autre côté de l'ordinateur. Et on vient de s'écouter Sally Ford and the Sound Outside avec le titre Leap Boy, titre choisi par Polo. Polo, je sais pas, t'as envie de donner, dire deux, trois mots sur le titre ou juste on satisfait de,
non,
du
non,
titre
j'ai pas grand chose à dire.
Okay.
Ok. Merci pour cette intervention. Mais du coup, maintenant, il va falloir que tu parles parce que, Polo, c'est toi qui as fait les dessins de la BD Trompe-l'œil dont on parle depuis le début de cette émission. Et donc, tu disais, bah, déjà, il y a une chose que tu as dit tout à l'heure qui m'a fait sourire, c'est la neige, c'est pas mon environnement. Et pourtant, tu as dessiné des paysages de neige, à peu près 99,9% d'une BD. Et alors, comment on fait quand, justement, on n'est pas du tout de cet univers-là et qu'on doit s'y plonger? T'es parti au ski?
Bah, déjà, j'ai déjà vu de la neige dans ma vie. Mais non, mais après, j'avoue, j'ai pas mal de docs sur le Québec. Google Street View, c'est, je pense, le meilleur ami des dessinateurs de BD. Quoi. Ça nous permet d'aller dans beaucoup, beaucoup d'endroits du monde sans y aller. Quoi.
Ouais, vas-y.
Et du coup, bah, voilà, beaucoup de docs et de Google Street View.
et pour le dessin, toi, tu as bossé, c'est-à-dire que tu as reçu tout le projet d'un coup et tu as gratté derrière, tu as dessiné derrière. Ou est-ce que tu dessinais dès le départ, tu as commencé quelques croquis pour un peu donner, on va dire, donner les personnages, etc. Enfin, pareil, est-ce que vous avez communiqué entre vous deux pour dire, tiens, moi, j'aimerais un personnage comme ça, un plutôt comme ça, etc. Enfin, c'est. Voilà. Dis-nous un peu la cuisine, la recette.
Ouais, bah déjà, quand Damien m'a contacté avec notre éditrice, Anne-Charlotte, le scénario n'était pas totalement écrit. Du coup, c'était principalement le synopsis et tout ça. Donc moi, je lui ai dit ouais. Et j'ai fait une petite planche de recherche de personnages avec les persos principaux. Où j'ai fait des propositions, quoi. Mmh. Et alors j'en ai fait plusieurs, mais je sais pas si je leur ai envoyé toutes les propositions ou si je me souviens plus, hein, si j'ai envoyé que celles que moi j'avais sélectionnées. Et après, Damien a commencé à écrire les chapitres plus précisément, quoi. Et moi, au début, j'ai attendu qu'il ait au moins le chapitre 2 de fini. Et j'ai commencé ce qu'on appelle le découpage, c'est-à-dire le brouillon de la BD, quoi, où là c'est vraiment dessiné très rapidement, on ne fait pas très attention à ce que ce soit bien dessiné ou quoi. Et j'avançais en même temps que je recevais le scénario, mais après, il y a des fois, parce que du coup on bosse à deux, quoi, il y a des fois sur le scénario, je n'étais pas toujours d'accord, donc j'ai proposé quelques modifications. De scénario que Damien a validé voilà. Et du coup ensuite c'était un peu en parallèle, Damien finissait d'écrire le scénario et moi je commençais les premiers chapitres.
Ok.
Et vous étiez dans la même pièce pour faire ça?
Non mais il y a téléphone et Skype et tout ça.
Du coup, vous avez bossé à distance?
Non, on s'est encore jamais vu.
Ouais, c'est ça, c'est qu'on s'est.
Je sais pas à quoi il ressemble.
On s'est jamais rencontré, effectivement. Donc là, on a hâte de faire les premières dédicaces pour se voir en vrai. Parce qu'on s'est vu qu'en visio ou au téléphone, etc. Donc, ouais.
Et question comme ça annexe, mais c'est quelque chose d'assez courant dans la BD ou même plus largement dans l'art, etc. De bosser comme ça à distance? Parce que je trouve qu'il y a, faut quand même qu'il y ait une sorte de confiance et aussi d'entente sur le travail de l'un et de l'autre, quoi. Enfin...
Ouais, c'est vrai que là, par exemple, je suis en train de développer un projet de BD avec un dessinateur italien.
Ok. Donc... tu l'as pas plus vu non plus.
Non. Mais du coup, voilà, je pense que ça se fait de plus en plus, effectivement. Après, c'est vrai que souvent, quand même, tu rencontres les gens. Moi, justement, j'ai un très bon ami qui est à Toulouse et on fait pas mal de projets comme ça, sans trop se voir, mais... on se connaît de base, mais c'est vrai que je sais pas trop, après je suis assez nouveau dans la BD, mais j'imagine que ça se fait quand même malgré tout.
Et Polo, ouais, tu
moi,
confirmes?
Je pense qu'il y a un peu. Je pense qu'il y a un peu de tout, quoi. Après, c'est vrai que pas mal de mes camarades autour de moi, y a souvent une étape où, en fait, où on bosse par visio. Déjà, les éditeurs, ils sont presque tous à Paris, on va dire, dans la majorité. Et pas tous les dessinateurs ne vivent à Paris.
Ah bon ?
Les scénaristes. Donc, à partir de là, y a toujours une étape où, de toute façon, en fait, on est un peu éclaté partout, à droite, à gauche, quoi. Et ça dépend de chacun, je pense.
Ok. Et toi, ouais, justement, pardon,
c'est
vas-y.
Rapide quand on est au même endroit.
Bah ouais, ouais, effectivement, forcément, oui. Enfin, il y a une interaction qui est, oui, plus facile, quoi. Et toi, tu parlais avant justement, enfin, de croquis et au-delà. Enfin, tu bosses comment, papier, crayon et gomme, ou est-ce que t'es plus team tablette numérique, etc. Ou un peu des deux.
On va dire que. Dans le monde actuel où on vit, l'étape numérique est obligatoire. En plus, ce serait un peu idiot de s'en passer. Hein. Mais alors, moi, j'ai une préférence. À la base, j'aime bien ancrer au pinceau sur papier à l'encre de Chine. Mais c'est pas toujours. Enfin, on n'a pas toujours forcément le temps. Et là, par exemple, ici, l'album a été fait entièrement sur numérique, quoi. Du crayonné à la couleur, tout a été. Moi, je travaille sur tablette actuellement, sur un iPad, c'est pas mal. J'aimerais juste qu'ils en sortent un peu plus grand, mais sinon, c'est pas mal. Et voilà, du coup, et tout a été fait sur tablette et ordinateur.
Et alors, là, on va rentrer un peu dans le détail de la BD, mais le choix des caractéristiques des personnages, ça vient du scénario ou c'est une proposition de ta part Polo, comment ça s'est construit?
C'est un peu des deux. C'est déjà quand Damien m'a envoyé le projet avec la description des persos, de leur caractère, tout ça, et puis du lieu aussi où se passe l'album. J'ai fait des propositions sur comment moi je visualisais les personnages. Du coup, je sais qu'au tout début, moi, Jade, j'en avais fait. Elle était un peu plus trapue et un peu plus masculine. Et Damien souhaitait qu'elle soit un peu plus féminine. Donc, j'ai respecté son choix, quoi. Le fil, le jeune policier. Je crois que Damien aurait peut-être aimé que je fasse un peu le cliché américain, un peu carré, costaud. Mais je sais pas, moi j'avais envie d'un mec un peu grand, aux cheveux longs. Forcément le cliché du cow-boy, quoi.
Un petit côté Adam Driver, en fait.
voilà. Et après, la famille Williams, en fait, pareil, au tout début, alors ça, je pense pas l'avoir envoyé à Damien et Charlotte, au tout début. J'ai fait des recherches perso avec un type mafia, un peu Al Capone, très italien. Mais je trouvais ça trop cliché, ça me convenait pas. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai repensé à Apple Fiction et du coup le père de Fiona. Du coup, j'ai mixé le personnage de Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction avec Marcellus Wallace. Je trouve que l'afro comme ça, c'est trop stylé avec les moustaches et tout. Et j'aimais bien la chemise qu'à un moment donné Marcellus Wallace là, et parce que c'est la même chemise en fait que qu'il a, pas la même couleur. Et voilà quoi. Et puis après j'ai pioché mes inspirations à droite à gauche.
En tout cas, ça rend d'autant plus touchante la BD, parce que justement on évite les clichés. Je sais pas si c'est ça qui est. Les personnages sont pas exactement comme on les aurait attendus. Et ça, c'est plutôt cool en fait. Parce que voilà, mais c'est bien parce qu'on a un peu l'arrière-cour de oui, moi je la voyais comme ça, lui plus comme ça. Et en fait, finalement, ça surprend. Par contre, les caractères collent bien au perso. Hein. Ouais. Ça, y a pas de photo.
En tout cas, en tant que scénariste, moi j'avoue que. J'ai toujours du mal à me projeter comment ils seront. Je sais comment ils ne seront pas, mais c'est vrai que J'évite de me projeter parce que quand on travaille avec un dessinateur, une dessinatrice, en fait, on sait que ça sera pas comme on va l'imaginer dans tous les cas. Et j'aime bien aussi me laisser surprendre. Et c'est pour ça que, enfin, j'ai bien aimé aussi ce qu'a proposé Polo. Et j'avais bien vu, tu nous avais envoyé le personnage en mode mafieux à la base. Ah, okay. Mais c'est vrai que ça marche mieux comme ça et ça fait vraiment des distinctions entre tous les différents personnages. Mais ouais.
Et du coup, pour les paysages, parce que tu disais que tu fais beaucoup de street view, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais là, quand même, tu as pu te faire plaisir, non ? Parce que je pense qu'un dessinateur, il aime bien passer d'un truc un peu intimiste dans une pièce à un énorme paysage.
Non, c'est les grandes cases, c'est toujours super, quoi. Après, c'est long à faire.
C'est bien, mais c'est long.
C'est très beau, c'est long. Alors, c'est long à dessiner et même c'est long à... à mettre en couleur, hein, on dirait pas non plus, mais comme ça. Mais du coup, j'avoue, il y a des fois, j'aurais aimé mettre un peu plus de diversité dans les arbres, mais bon, j'ai opté pour le choix des pins. Alors c'est un peu cliché, je sais qu'au Québec il n'y a pas que des pins.
En premier, c'est
à un moment donné, voilà, on était un peu malheureusement, on n'avait pas 3 ans pour l'album.
Je pense que si on nous attaque juste sur les pins,
ça va.
Ça me va, franchement.
Non, alors, bon. Attention, parce que j'ai sur mes précédents albums, j'ai fait quelques festivals et il y a toujours un peu ce qu'on appelle les compteurs de boutons qui sont surtout dans la BD historique. C'est ceux qui disent
les puristes.
Là, sur la veste Napoléon. T'as oublié 2 boutons. Tu vois, oui, bon, ok.
Ah oui, c'est les gens qui vont au détail, quoi.
Ah, il y en a toujours.
Ouais. Ok.
Donc là, toujours. Et alors, il y a une sortie prévue au Québec ?
Oui, la BD sort au Québec. Mais je crois qu'elle sort dans tous les pays francophones, en fait. Mais oui, elle sort au Québec.
Ben, du coup, t'auras sûrement des retours de Québécois.
J'ai eu un retour déjà d'une Québécoise qui me fâchait parce que justement, on parlait pas en québécois. Donc, je fais bon, tant pis.
Ouais. Bon, on peut faire une traduction québécoise. Hein,
oui, on peut.
Donc, faut demander. Et du coup, alors moi j'avais une question un peu plutôt pratico-pratique. Quand vous travaillez à distance, comment vous avez travaillé sur l'ancrage ? C'est-à-dire. Parce que finalement, là, on a le rendu final, nous, de la BD, et ouais, super. Mais de vous, il y a bien un moment donné où il a fallu se dire, ok, ça colle, ok, ça colle pas. Donc du coup, c'était des essais, et là, le numérique aide beaucoup, parce qu'on peut effacer. comment ça s'est passé, en fait ?
Vas-y, Paul.
Moi, à chaque étape, j'envoyais les pages à Damien et à Anne-Charlotte. Et du coup, après, ensuite, ils faisaient les retours, donc... Comme je disais tout à l'heure, quand on était sur le découpage, en fait, là, c'est pas vraiment la question du dessin, même ça rentre un peu pour la mise en scène et tout ça, mais c'est, enfin, le choix des plans. Mais c'est surtout le découpage, c'est surtout l'étape de la mise en scène et du texte, quoi. Donc, comment on enchaîne les bulles, qu'est-ce qu'on peut raccourcir, qu'est-ce qu'on peut rajouter, est-ce que c'est trop long, est-ce qu'on devrait pas déplacer cette page-là plus loin ou plus en avant? Et voilà, du coup, en fait, moi je faisais ça, j'envoyais les pages, j'avais les retours. Ensuite, quand a commencé l'étape d'ancrage, pareil, hein, au fur et à mesure, j'envoyais les pages et, en attendant leur retour, quoi. Mais de manière globale, pas eu beaucoup de retours, enfin de corrections, on va dire, sur l'ancrage. Ils avaient l'air contents.
Ouais, il a l'air, il est en face de nous. Ça a l'air d'aller. Et du coup, moi, ça m'interroge un peu sur toi qui as écrit le scénario. Finalement, tu as un peu ton réalisateur visuel là, qui est là, qui te fait le visuel.
Ouais.
Est-ce que du coup, tu t'es senti par un moment, ou d'ailleurs même toi, Polo, est-ce que vous êtes senti frustré à un moment donné de ne pas pouvoir faire exactement ce que vous vouliez ?
Moi, personnellement, non. Après, justement, Paul a quand même proposé pas mal de choses en faisant le découpage, a proposé pas mal de choses pour fluidifier aussi la narration, parce que c'est vrai que des fois il y avait des séquences qui étaient peut-être redondantes et en fait il a réussi à les condenser en une seule séquence par exemple. Donc non, moi j'ai pas vraiment eu de frustration. Après, je pense que c'est peut-être Paul de son côté, dans le temps, on n'a jamais le temps qu'on veut en fait pour réaliser les planches, donc je pense que c'est plus sur ça.
Bien sûr, en tout cas sur les pains, c'est sûr. sur les pains, il y a un grand regret. Mais du coup, Paul, toi, tu es pas scénariste par ailleurs ou tu fais que de...
Ah ouais, je fais un peu tout hein, dans la BD. Je fais du scénario, je fais le dessin, je fais de la couleur. Donc ça dépend des projets en fait. Moi j'aime bien toucher un peu à toutes les étapes quoi. Donc là c'est vrai quand j'ai reçu, il y a des fois j'étais peut-être un peu radical sur les ce que m'a envoyé Damien quoi. Je dois admettre que à un moment donné je voulais carrément supprimer un personnage. Alors finalement on les a gardés, c'est pas plus mal. Mais... Il y avait un personnage, j'étais un peu plus dans le doute. Je vois, ah, on l'enlève, c'est bon.
J'ai insisté.
Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a une vraie collaboration, quoi, finalement.
Ouais, bah, en fait, du coup, on dit toujours scénariste-dessinateur, mais en fait, on est deux auteurs. Le scénariste va écrire le scénario, mais le dessinateur a aussi son... Bon, là, c'est un peu différent, parce que Paul a proposé pas mal de choses, mais malgré tout, dans la mise en scène, dans le choix des personnages, dans le découpage, même les choix de couleurs, etc., tu racontes une histoire, donc oui, c'est une vraie collaboration. Et puis, il y a quand même aussi l'éditrice qui est là pour faire des choix, pour trancher aussi, et qui a aussi une vision hein, de l'œuvre. Hein, c'est un peu comme un producteur au cinéma. Donc je dirais que c'est même une BD qui s'est construite à trois, même si principalement c'est Paul et moi, mais Anne-Charlotte l'éditrice a aussi eu un rôle important dans la création de la BD.
Mais après, est-ce que c'est pas un petit peu le jeu justement, ce que tu parlais, enfin tu disais toi Damien que justement quand tu créais tes personnages, enfin tu sais pas à quoi ils vont ressembler, donc de fait, enfin il y a quelque chose qui ne t'appartient déjà plus.
Carrément.
Ou qui appartient encore un petit peu à toi, mais qui appartient beaucoup aux dessinateurs. Est-ce que, enfin c'est, il y a une vraie, ouais c'est vraiment, il faut trouver un terrain d'entente. Ouais. C'est vraiment une vraie collaboration. Enfin c'est pas un auteur, un scénariste qui va imposer ses règles. Parce que de toute façon, toi, tu sais pas dessiner, donc.
C'est ça. Non, mais juste oui, carrément. C'est un travail collaboratif et de toute façon, il faut l'accepter. De toute façon, enfin, je viens de l'audiovisuel, du cinéma, où on travaille à beaucoup de personnes. Là, c'est vrai que je trouve que c'est même plus un luxe en fait de travailler à deux, trois comme ça. Donc, moi, je trouve ça plutôt chouette. Mais oui, c'est totalement une œuvre collaboratrice. Enfin,
collaborative.
Collaborative. Oh, ça marche aussi.
Écoute, après les fossoyeurs.
Il est 23h. Excusez-moi.
Polo, il veut rajouter un truc.
Oui, bah, en plus, moi, de la petite expérience que j'ai maintenant, j'ai remarqué quand.
Pardon, je te coupe vite fait, parce que ça fait combien d'années que tu. Justement, que toi, t'es dans le milieu de la BD?
Mais moi, je suis un bébé hein, de la BD. Hein. J'ai commencé en 2016, donc je suis encore un bébé.
Ok. Pardon, mais vas-y, je voulais pas te couper plus que ça. Vas-y, vas-y.
Mais ouais, non, mais je. Sur les scènes. Je voulais juste dire que de toute façon. En plus, les scénaristes, ils ont toujours beaucoup, beaucoup de choses à dire. Point commun que j'ai remarqué entre les scénaristes, hein, il y a toujours dit, bon, là, il y en a beaucoup, on va peut-être en enlever un peu quand même.
Il faut élaguer. Comme les pains, il faut élaguer de temps en temps. ça passe
non, mais
pas.
C'est ça, ouais, parce qu'en fait, la BD, il faut vraiment que ça fonctionne. C'est quand même un rythme, etc., ouais. À tenir. Alors qu'effectivement, dans l'idée de scénario, il y a cette idée d'écrire. Et quand on écrit, on peut vraiment s'épancher très longtemps sur une situation, sur un duo ou un duel, etc. Donc, ouais. De fait, oui, c'est.
C'est ça.
Il faut tailler dedans, quoi.
C'est ça. Mais du coup, c'est vrai que j'avais tendance à mettre beaucoup de dialogues et j'ai compris qu'on n'était pas au cinéma. Du coup, enfin, on m'a fait comprendre. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup appris aussi sur cette BD, sur le rythme. Donc, c'était une vraie expérience et maintenant, je démarre mes projets de manière différente parce que j'en ai fait une première. Donc, ouais.
Et avant qu'on fasse une coupure musicale, et là, je pose la question comme ça, à quand le film?
Le film trompe-l'œil ?
Bah ouais.
Parce qu'il y a des producteurs qui veulent racheter les droits et qu'on le mette en film, moi je suis chaud. Hein. Je pense que ça peut fonctionner après.
Alors, entre les personnages, les dialogues, certaines scènes, etc., ouais,
ça ferait un bon film. Ça fait déjà une super BD. Alors, ça peut être qu'un bon film.
En tout cas, moi c'est toujours pareil. Si je dois adapter mes bandes dessinées, c'est en animation. Je ne verrai pas trop en film live. Mais oui, carrément, moi je serais super chaud.
Ok. Polo, un dernier mot avant qu'on fasse une coupure?
Non, ça va.
Eh ben, très bien, alors on passe à la ZIC et on se retrouve juste après. Toujours à l'écoute de Radio Canu.
Tu veux pas que je fasse de reprise,
mais
c'est
si,
ça, c'est
bah...
ça. Dans la causerie, au 102 sur radiocanu.org. Et on vient d'écouter Kitty Daisy and Lewis avec Whiskey.
Voilà. Tout à fait. Un son c'est... encore sélectionné par un de nos invités. Polo, est-ce que tu veux dire un mot ou c'est juste tu kiffes et t'avais envie de partager?
Ah, vraiment, c'est un petit groupe que je kiffe. Pas grand-chose à dire là-dessus. C'est, voilà, Aria. Dans la chanson, ça parle un peu d'alcoolisme, alors je me suis dit que ça collait avec l'album.
C'est vrai que ça...
D'alcoolisme et d'amour, donc...
Oui, ça a beaucoup de liens, finalement, avec la BD.
La BD Trompe-l'œil.
Oui, aux éditions Jungle.
Parce que Damien et Paul sont là ce soir pour nous parler, et t'es là plutôt, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, pour nous parler de la BD Trompe-l'œil. Et comme justement on arrive à la fin de l'émission, c'est le moment où on fait de la retape. Donc il faut y aller à fond. Donc du coup, est-ce que déjà vous avez des moments dédicaces où on peut vous rencontrer, et venir discuter, découvrir peut-être la BD aussi, parce qu'après tout, voilà, parce qu'elle sort, je le rappelle, jeudi.
Ouais, 21
voilà,
mars.
21 mars. Et donc...
Effectivement, alors du coup on sera sur Lyon dans la librairie Momilion le 20 avril, tous les deux. Et puis après moi je serai au festival BD Cine le 13-14 avril, Et puis on va
donc
faire.
C'est à Dessine.
C'est à Dessine.
Oui, bah oui, mais.
C'est bien son nom. Dessine. Oui, mais c'est vrai.
Bah oui, il faut dire où c'est
dans
quand même.
Voilà. Voilà, et puis après on va faire une petite tournée dans le sud, là, sur la Côte d'Azur. C'est en cours de préparation, mais on a.
Niveau juin-juillet.
Ouais, exactement.
C'est en fait, vous allez en vacances, quoi.
C'est un peu, oui, c'est ça. Non, mais ouais, fin juin, on va faire une tournée dans le sud de dédicace. On est en train de mettre ça en place. Donc ça, c'est trop cool. Enfin, moi, j'ai trop hâte d'allier le...
Et l'envie de rencontrer les lectrices et les lecteurs, du coup.
Oui, aussi.
Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui vous fait...
Carrément. Bah, c'est vrai que moi, j'ai juste fait, pour l'instant, des dédicaces sur les rues de Lyon. Et c'est vrai que déjà, les gens sont vachement... content d'en parler, mais là c'est vrai que j'ai hâte d'avoir le retour de personnes sur une œuvre qui est quand même beaucoup plus personnelle. Donc ouais, carrément, j'espère rencontrer pas mal de gens et qu'on puisse discuter, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai vraiment hâte, moi c'est déjà, j'ai hâte de rencontrer Paul en vrai, en dédicace, et puis de rencontrer les gens et se confronter, même les libraires qui vont nous accueillir, ou les festivals. Donc ouais, trop hâte.
Eh ben, très bien. On peut d'ailleurs aussi préciser aux auditeurs, auditrices, si tu as envie de favoriser plutôt les libraires de ton quartier, ou tu vois, plutôt que les gros, il y a un truc qui s'appelle chezmonlibraire.fr, si je ne me trompe pas. Et puis bah, tu peux savoir si une librairie pas loin de chez toi a cette BD. Et sinon, tu peux même la commander dans cette librairie plutôt que chez les gros bonnets de la distribution de tout ça. C'est purement personnel. Hein,
voilà, ouais, je comprends.
Et oui, alors moi du coup, et Polo, toi, t'es pressé toi aussi de rencontrer Damien? T'as la question qui tue.
Ouais, c'est cool, pour pouvoir discuter face à face et bah, parler un peu de l'album, puis de tout un d'autres trucs, quoi. Voilà, je crois que... Et puis même, c'est l'occasion pour moi de venir faire un tour à Lyon, parce que j'ai mis les pieds à Lyon, donc je connais pas, donc on verra bien, quoi.
Bah, cool.
Et du coup, toi, tu avais déjà dédicacé d'autres œuvres avant, toi aussi, parce que
ouais,
Damien parlait
ouais,
des
sur
de
mes
Lyon.
Ouais, sur mes précédents albums, en fait, j'ai bossé sur un premier projet qui était un peu foireux, mais comme beaucoup de gens qui débutent en BD, quoi. Et après, en fait, j'ai fait deux albums à la boîte à bulles sur qui s'appelle La Guerre des Autres. C'est sur la guerre du Liban, enfin, c'est sur le début de la guerre du Liban dans les années 70. Et avec ça, du coup, on a pas mal tourné, puisqu'on était à quatre mains pour dessiner cet album. Et on a pas mal bougé à l'occasion de cet album-là. Et voilà, puis après, bon, pour les boulots où j'étais plus en mode coloriste, on m'invite moins souvent à faire des dédicaces.
Malheureusement. Voilà. C'est comme dans le cinéma, on oublie les gens qui sont derrière, les réalisateurs.
Ouais,
réalisatrice.
Et juste aussi, si les auditeurs, auditrices veulent découvrir ou suivre votre boulot individuel, est-ce que vous avez des sites ou des choses comme ça où on peut vous suivre?
Ouais, alors moi j'ai pas de site, mais j'ai mon Instagram Damien Martinière, je crois. Ça s'appelle comme ça.
Ok.
C'est comme ça que tu t'appelles.
Oui, c'est pour ça que j'ai fait très simple.
Et Polo, toi t'as un site ou une page ou un réseau où on, les auditeurs, auditrices.
Ah, pareil, il y a Instagram. Hein. Qui n'est pas sur Instagram maintenant. Bah, du coup, pareil sur Instagram, et c'est Paul Bonnat BD.
Yes.
Tout simplement.
Et on tâchera de mettre de toute façon tous ces liens aussi sur le blog, comme ça les auditeurs, auditrices n'auront plus qu'à cliquer pour vous trouver. On arrive vraiment à la fin de cette émission. Est-ce que vous aviez un mot, un dernier mot, avant qu'on rende l'antenne?
Bah non, merci beaucoup encore pour votre accueil, parce que à chaque fois c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter pendant une heure comme ça, de pouvoir mettre les musiques qu'on aime et tout. Donc voilà, merci beaucoup vraiment.
C'est avec plaisir. Vraiment.
Polo, un dernier mot?
Non, bah c'est cool de participer.
Tu peux dire bonjour, voilà, vous pouvez dire bonjour à des gens que vous voulez saluer aussi. Hein.
En tout cas, merci Polo quand même de t'être collé une interview avec Oreillette. Enfin, tes conditions à toi, c'est pas forcément aussi cool que nous autour d'une table et des micros devant nous, etc. Donc merci, parce que ça peut être un peu chiant. Soyons honnêtes. Et ben voilà. Donc on rappelle quand même, la BD c'est Trompe-l'œil aux éditions Jungle, dans la collection
Ramdam.
Merci.
Et c'est à nous de faire de la retape pour l'émission.
Ah oui, c'est vrai.
Donc du coup, oui, parce qu'on fait aussi une émission en dehors de cette émission. Donc en fait, si tu veux retrouver cette émission et les 513 autres précédentes, et d'ailleurs celles qu'on avait fait sur Kaamelott par exemple, il suffit de taper blogs avec un s.radiocanu.org/lacauserie, ou tu tapes la causerie canu sur ton moteur de recherche et tu nous trouves assez facilement. Si tu es un fan des podcasts ou la balado-diffusion, comme on dit, tu vas sur ton agrégeur de podcasts et tu tapes la causerie canu, mais tu mets bien canu, parce qu'on nous a déjà dit oui, mais c'est pas la causerie qu'on a l'habitude d'entendre. Oui, parce qu'il y a des causeries sur la bouffe, mais c'est pas nous, mais elles sont bien. Voilà, et sinon, tu peux aussi nous retrouver sur Facebook, mais là, on fait juste de la promo, donc ne nous écris pas par là. Et si tu veux nous écrire, voilà,
Mail.
Ouais, c'est lacauseriecanu@gmail.com. lacauseriecanu@gmail.com. Genre, t'as fait une BD dont t'aimerais bien venir parler pendant une heure. Et ben, si ça matche entre nous, ben, y a pas de souci, tu viendras en parler pendant une heure. Voilà.
Et ben, très bien.
C'est le match entre nous.
Oui, c'est ça.
Non, je pensais pas à Tinder.
Oui, pardon.
ça le fait entre nous.
Des formations, hein, des formations. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Voilà.
On va vous l'annoncer la semaine prochaine.
Oui, effectivement, la semaine prochaine. Et ben encore des invités, dis donc. On n'arrête pas en ce moment la causerie. Donc la semaine prochaine, on va causer des rues de Lyon et du numéro du mois de mars qui. Alors, si vous vous souvenez, le mois dernier, on avait causé de la période 1789-1799, la révolution à Lyon, mais pas que. Là, ça va être la contre-révolution. Donc, c'est le thème du numéro du mois de mars des rues de Lyon. On sera en compagnie de Nicolas Dalméda. On causera de ça. Et dernier rendez-vous aussi, je suis dans le désordre, mais c'est pas grave, on est habitué. Mardi soir, souvenez-vous, il y a la rencontre avec les journalistes de rue 89 Lyon. Donc,
qu'on a reçu la semaine dernière.
C'est tout à fait ça. Donc n'hésitez pas, parce que c'est un rendez-vous qui peut être très sympa, justement, de défaire un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur les journalistes, etc., qui seraient inaccessibles ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'aller rencontrer ces journalistes, discuter avec eux et c'est dans le 7e et je n'ai plus l'adresse, mais on peut vous mettre ça sur le blog si vraiment vous insistez. En fait, c'est au siège de rue 89. Dans le 7e, c'est sûr, mais j'ai pas l'adresse exacte. Voilà, je crois qu'on a rien oublié. Nous, on vous donne rendez-vous évidemment dimanche prochain à partir de 22h. Et on se quitte avec un dernier titre choisi cette fois-ci par Damien. Alors, je vais le donner, c'est ça l'idée.
Ouais, je crois vraiment qu'il te regarde en mode. Je sais plus comment ça s'appelle.
En plus, il est à rallonge ce titre. Alors, c'est The Peddlers, avec le titre On a Clear Day You Can See Forever.
Parfait. Et c'est.
Parfait, n'abusons
c'est,
pas. Mais...
C'est tiré de. Enfin, c'est une chanson originale à la base, mais je l'ai découvert dans la série Breaking Bad. Et Breaking Bad, c'est ma série de cœur. Et je me suis beaucoup inspiré aussi dans l'ambiance pour Trompe-l'œil. Donc voilà, c'était histoire de boucler la boucle.
Et ben nickel.
Ben Polo, encore merci.
Merci. Pas de soucis, mais de rien.
Damien aussi.
Merci à vous.
Et l'auditrice mystère, merci.
Je ne veux pas dire qui elle est. On se retrouve la semaine prochaine.
22-23 sur l'antenne de Canu. D'ici là, portez-vous bien. Des bisous.
Bisous.
Et on se quitte en musique.
Salut.
Ciao.
Ciao. Around you, and you will see who you are on a clear day. How it will astound you that the glow. Outshines every star. You'll feel part of every mountain, sea and shore, and you can hear from far and near a world you've never heard before. But on that
but today, on that clear day, you can see forever and ever, ever. You can hear from far and near.